Alors, je vais maintenant laisser la place à François, notre pasteur stagiaire, qui va nous apporter une méditation. Et je reprendrai la parole après la prédication pour un moment de prière et une collecte spéciale en faveur d'une œuvre caritative, le sel.
Ce que j'ai pas pu voir. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Dans le courrier d'invitation à Madame Laine et envoyé par bien d'autres églises à leurs propres députés, une phrase disait « En tant que protestant, enraciné dans la Bible, nous attachons de l'importance à la générosité, l'intégrité, le sens des responsabilités, le respect, notamment de l'environnement, et l'accueil des populations fragilisées. » Nous sommes évidemment d'accord avec ces principes. Et la phrase suivante disait aussi « Nous œuvrons également de notre côté pour que nos propres comportements soient cohérents avec ces valeurs. » Et en annexe, il y avait un rappel de 5 propositions de Michel France aux députés. Et elles sont affichées sur la porte là-bas pour que vous puissiez les relire. Et avec encore là 5 corollaires, nous concernant, me concernant. Premièrement, en tant que chrétiens protestants, nous nous engageons à faire preuve de générosité en soutenant des actions de développement dans les pays les moins avancés. Deuxièmement, nous nous engageons à être des citoyens intègres en déclarant nos revenus et en payant nos impôts. Troisièmement, nous nous engageons à assumer nos propres responsabilités en orientant nos choix de consommation vers des produits respectueux des producteurs. Quatrièmement, nous nous engageons à être respectueux de l'environnement dans notre style de vie. Et cinquièmement, nous protestants, nous nous engageons aussi à manifester l'hospitalité en accueillant chacun, et plus particulièrement les plus vulnérables, qu'ils soient sans domicile fixe, migrants, handicapés ou âgés. Ouh là là, je me suis engagé à tout ça, moi. Pour certaines choses, pas de souci. Pour d'autres, j'ai encore quelques améliorations à mettre en place. Je croyais que l'objectif du défi Michi était juste d'éradiquer l'extrême pauvreté dans le monde. Quelque chose d'assez lointain, pour lequel je peux assez facilement contribuer par une aide financière. Mais comme souvent, Dieu me veut plus cohérent entre ce que je peux dire et ce que je peux faire, plus engagé aussi, engagé pour lui, et pas seulement par une étude biblique par-ci ou une prédication par-là, souvent un engagement plus pratique aussi. Engagé pour lui, pour m'engager pour les autres, engagé au loin et engagé dans mon entourage, engagé dans toutes les dimensions de ma propre vie. Ma vie est-elle à la hauteur de l'attente, de la demande de l'Éternel, déjà énoncée par le prophète Jérémie il y a 2500 ans. Silence gêné dans la salle peut-être, et au pupitre aussi. Je peux juste refermer ma Bible et repartir tout triste, en me lamentant de ne pas être à la hauteur, effectivement. Mais dans cette situation, comme dans tant d'autres, l'invitation de Dieu est bien différente. Elle est de regarder à lui aussi, de s'appuyer sur lui. Pas de se morfondre, accusé par nos consciences, en regardant à nous-mêmes et à nos manquements, ni d'essayer de se comparer aux autres, pour se rassurer un peu peut-être, en se disant qu'on n'est pas si mal que ça après tout, ou en tout cas peut-être dans la moyenne, mais regardez à Dieu. Regardez à Dieu, et c'est ça le réflexe à avoir, à toujours avoir. Et on vient bien à l'église pour ça, non? Et on peut même le faire en tout autre endroit, puisque Dieu est omniprésent. Qu'est-ce qui différencie un chrétien d'un non-chrétien ? Dieu. Dieu, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu éternel, tel que la Bible le révèle. Malheureusement, ça ne transparaît pas assez souvent dans nos vies. Ça ne se voit pas facilement, parce qu'on en essaye trop souvent de vivre, d'agir, et même de changer le monde par la seule force de nos petits bras musclés. Et là, évidemment, ça ne suffit vite pas. Mais notre Dieu est-il trop petit ? Votre Dieu est-il trop petit ? Mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi à l'épreuve, disait Dieu au peuple d'Israël dans un autre verset que rapporte un autre prophète, le prophète Malachie. Faites-moi confiance et vous verrez si je n'agis pas. Et si un chrétien est un peu fou pour croire que le monde peut changer, ou en tout cas que des vies peuvent changer, c'est parce qu'il a cette confiance. Et c'est alors le monde personnel d'hommes et de femmes qu'il change. Et croyez-moi, ça c'est encore plus fort et plus révolutionnaire. Dieu a en effet changé mon propre monde et celui de la plupart d'entre nous ici. Faites-lui confiance et vous verrez s'il n'agit pas. Michel France a choisi la générosité pour thème de sensibilisation et de campagne pour les 3 prochaines années, avec cette année un accent sur l'accueil généreux, comme Frédéric l'a déjà évoqué. Et je me suis demandé si c'était bien essentiel d'y mettre beaucoup d'énergie, plutôt que de se concentrer sur les vrais problèmes de lutte contre la pauvreté. Mais à bien y réfléchir, la pauvreté peut évidemment prendre bien des visages. La pauvreté existe même au-delà de sa composante matérielle. Et la pauvreté dans nos sociétés, notre société, n'est-elle pas aussi souvent relationnelle ? Indifférence, isolement, solitude, un isolationnisme fruit de notre individualisme, de notre égocentrisme, de nos égoïsmes. Enfin, je dis nous, c'est évidemment les autres le problème, bien sûr. La société est injuste, on le dit ou pense souvent. Et où nous situons-nous là-dedans ? Ai-je un accueil généreux pour les autres ? Regardez à Dieu, je le disais il y a quelques minutes, et c'est vrai que son exemple, dans le domaine comme dans tant d'autres, sera certainement interpellant et encourageant pour vous comme pour moi, car Dieu est effectivement accueillant, généreusement accueillant. Si nous avons dans notre vie fait la paix avec Dieu, si nous nous sommes réconciliés avec lui en acceptant sa main tendue en Jésus-Christ, alors nous avons personnellement expérimenté l'accueil de Dieu. L'accueil de ce Père aimant qui pardonne et sauve, qui restaure et transforme. Et nous connaissons sa générosité par la vie nouvelle qu'il donne. Et cet accueil extraordinaire, surprenant mais tellement appréciable, indispensable, la parabole du fils prodigue nous le représente. On ne va pas parcourir toute l'histoire ce matin, je rappelle juste le contexte. Un fils qui un jour claque la porte du domicile familial et part découvrir le monde. Et ce qu'il croit être la vraie vie et la vraie liberté. L'histoire a été racontée par Jésus il y a 2000 ans, mais elle est encore tellement actuelle. Et ce jeune homme dépense toute sa part d'héritage par une vie dissolue, puis un beau jour se retrouve sans rien. Il réalise la folie et la vanité de sa vie en rébellion. Il réalise son isolement, sa solitude. Avec de l'argent, il avait des amis. Maintenant qu'il est marginalisé, il se retrouve bien seul. Et conscient et repentant de son erreur, il retourne alors chez son père, en espérant ne pas se faire jeter, en espérant un simple travail de serviteur. Et l'évangile de Luc nous rapporte au chapitre 15, verset 20. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courra se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Quelle joie dans le ciel lorsque nous nous sommes chacun tournés vers Dieu. L'accueil généreux de Dieu pour quiconque revient à lui, même si on a d'abord claqué la porte, même si on a gaspillé bien des choses et bien du temps dans sa vie, l'accueil de Dieu. C'est ce que le bas-relief dans notre église représente. C'est l'accueil dont nous avons nous-mêmes bénéficié de la part du Dieu d'amour. Lorsque Dieu accueille, il le fait bien et il voit les choses en grand. Et nous ? Nous devons faire pareil, bon gré, mal gré, ou nous avons envie de le dire, de le partager et de faire pareil. Le privilège de pouvoir le dire et de faire pareil, en étant simplement accueillant et généreux, grâce à la générosité première de Dieu pour nous. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, exhortait l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Pour la gloire de Dieu. Faut-il comprendre que Jésus nous a accueillis pour la gloire de Dieu ? Oui, ça on vient de le rappeler, c'est sûr, sans aucun doute. Ou comprendre que notre accueil des uns et des autres est aussi pour la gloire de Dieu. Tout dépend de la ponctuation que l'on met dans cette phrase, mais la ponctuation n'existe pas dans le texte grec d'origine. Alors sûrement les deux. Notre accueil, tout comme la façon dont nous avons été et sommes accueillis par le Christ, sont pour la gloire de Dieu. L'exemple à suivre est encore et toujours l'exemple de Christ. Et c'est vrai qu'au cours de sa vie terrestre, Jésus a toujours accueilli ceux qui venaient à lui. En particulier les plus marginaux, les plus pauvres, les plus lointains de Dieu. Il n'accueillait pas nécessairement ceux qui lui ressemblaient ou partageaient ses convictions. « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux !» était le murmure et le reproche récurrent des pharisiens et des scribes contre lui. Et nous ne pouvons bien sûr pas dire que ces gens de mauvaise vie qu'il accueillait ressemblaient à Jésus. Mais peut-être qu'à son contact, ils allaient devenir ses disciples. La contagion dans le bon sens. Peut-être qu'à son contact, ils allaient devenir ses disciples. La contagion dans le bon sens. Voilà son objectif. Et même parmi les premiers disciples, Jésus a fait des choix surprenants. Matthieu, collecteur d'impôts, collaborateur des Romains, et à l'opposé Simon, le zélote, un révolutionnaire prêt à prendre les armes contre les Romains. Pierre l'impulsif, Thomas le sceptique, Jacques et Jean les égocentriques, etc., etc. Et non seulement Jésus accueille, mais il se laisse aussi accueillir, et par des gens très divers, par Simon le pharisien, par Zachée le péager, etc. Les évangiles en montrent plein d'autres exemples. Dieu ne fait pas de considération de personne. Dieu aime chaque personne, toute personne, même les pécheurs, surtout les pécheurs, même les rebelles, surtout les rebelles. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. La communauté chrétienne de Rome, à qui Paul écrit ce verset, comme beaucoup d'autres églises d'ailleurs, était très cosmopolite. Elle comprenait des croyants venant de régions variées de l'Empire romain et même de plus loin, des hommes et des femmes ensemble, des riches et des esclaves ensemble, des ex-juifs et des ex-polythéistes ensemble, des intellectuels et des personnes du bas peuple, un mélange inédit et plus que révolutionnaire pour l'époque, et même pour toutes les époques. Ils avaient donc des mentalités, des cultures, des sensibilités, des besoins et des attentes très différentes. Cette diversité, ça se comprend, pouvait donner lieu parfois à des jugements, à des partis pris, à des discriminations et des intolérances entre eux, mais cela allait à l'encontre de l'accueil réciproque que Dieu attendait d'eux. D'où l'exhortation de Paul. Pour les aider à surmonter ces difficultés, l'apôtre ne trouve pas de moyen plus efficace que de les faire réfléchir à la grâce de leur propre conversion, à la grâce de leur propre accueil par Jésus. Oui, tous, aussi imparfaits les uns que les autres, Jésus les avait accueillis, généreusement accueillis chacun d'eux. Et on vient d'en parler de cet accueil de Dieu. Tels qu'ils étaient, malgré leur passé, leur éloignement de Dieu, Jésus les avait réunis pour former un seul corps. On dit qu'on ne choisit pas sa famille. C'est vrai pour notre famille terrestre, charnelle, mais c'est aussi vrai pour notre famille spirituelle, pour notre Église. Mais Dieu arrive à en faire un seul corps. Miracle du choix et de la grâce divine en Jésus-Christ. Et il y a encore beaucoup de monde à rajouter pour la gloire de Dieu. Ouvrons donc nos portes et nos cœurs. L'évangile de Luc rapporte aussi ce passage qui dit « Jésus était entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Jésus dit à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou de riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi de ta peine. Non, si tu donnes une réception, invite des pauvres, des extropiés, des paralysés, des aveugles. Si tu fais cela, tu en seras très heureux, précisément parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. » Et dans un autre passage, Jésus disait encore, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas aussi, de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas ainsi ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » L'exemple de Jésus. Eh bien, il n'est pas toujours facile, l'exemple de Jésus. C'est le moins qu'on puisse dire, pas évident du tout. Parfait. C'est facile pour lui. Lui, il était parfait. Mais nous, on est loin du compte, quand même. Alors, on peut voir cela comme un objectif utopique, impossible à atteindre. Mais là encore, Jésus, notre Seigneur bien-aimé, et surtout bien-aimant, veut nous amener plus loin que juste nous culpabiliser, vous en doutez sans doute. Lui, il veut toujours nous transformer à sa ressemblance. Pas seulement nous aider à nous dépasser une fois de temps en temps, mais carrément nous transformer de l'intérieur. Changer notre nature, notre cœur, nos valeurs, nos principes, nos raisonnements. C'est ça son objectif, et toujours ça son objectif. Nous faire grandir spirituellement. Ne l'oublions jamais, et c'est du concret. J'étais très égoïste, je suis un peu plus altruiste. Il a commencé son travail de transformation. J'étais assez radin, je suis un peu plus généreux. Surtout quand je réalise que je ne suis pas propriétaire de mes biens, mais juste le gérant des richesses que Dieu me donne avec fidélité et libéralité. Il a commencé son travail de transformation. J'étais colérique dans ma jeunesse, je suis en paix. Et je l'espère, un peu artisan de paix aussi. Il a plus que bien commencé son travail de transformation. Et vous pourrez transposer ces phrases avec ce qu'il a transformé ou est en train de transformer chez vous, ou ce qui aurait encore besoin de l'aide peut-être. Bref, quel accueil offrons-nous ? Peut-être peut-on s'encourager par un verset de l'Épître aux Hébreux qui dit « N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. » Waouh, c'est pas cool ça ? Accueillir des anges. Qui d'entre vous n'aurait pas envie d'accueillir des anges ? J'avoue que j'aimerais bien que ça m'arrive. Petit bémol, le verset précise « sans le savoir ». Dommage. C'est assurément que ce n'est pas l'essentiel de le savoir, peut-être et même sûrement pour ne pas s'enorgueillir. Abraham lui-même ne le sait pas quand il accueille trois êtres célestes, Lot non plus. Mais quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, nous dit l'Épître aux Colossiens. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Ce que nous faisons pour Dieu a souvent une portée plus grande pour les autres, et souvent aussi pour nous-mêmes, que nous ne le pensons. En effet, même si nous ne recevons pas toujours de véritables anges dans notre foyer ou notre église, nous pouvons y accueillir des hommes et des femmes, dont la présence même nous sera en bénédiction, ou pour qui nous serons une source de bénédiction. Et cela peut avoir des résultats qui durent pour l'éternité, par la grâce de notre Dieu. Et dans le texte de Luc que j'ai lu, Jésus nous encourage à inviter ceux qui n'y peuvent pas nous rendre l'appareil, c'est-à-dire sans doute inviter ceux qui sont dans le besoin. Cependant, nous pouvons aussi comprendre qu'il s'agit peut-être d'inviter au-delà de notre horizon proche. Et posons-nous la question. Quelles sont les personnes que je n'invite jamais ? L'exhortation de Jésus nous pousse à passer outre les barrières de la société. Peut-être sommes-nous gênés d'inviter des personnes aisées ou importantes ? Frédéric l'a fait ce matin. Que vont-elles penser de notre église ? Ou de notre logement ? Notre accueil, notre verre de l'amitié ou notre repas sera-t-il assez bon pour eux ? Ou alors avons-nous des difficultés avec les personnes un peu atypiques, plus marginales, ou certains voisins un peu ronchons? Nous avons tous des personnes que nous oublions, ou que nous voudrions oublier. Nous pouvons aussi peut-être facilement, et moi le premier, nous demander parfois si réellement tous doivent être les bienvenus à nos réunions d'église. Imaginez-vous poser cette question à Jésus? Maître, faut-il vraiment accueillir des personnes de mauvaise vie ? On devinera assez facilement la réponse. Les récits évangéliques témoignent que Jésus fréquentait de telles personnes, ce qui était, comme nous l'avons vu, un scandale pour les religieux de l'époque. Et pour moi, suis-je trop religieux ? Toute personne se sent-elle aussi bien accueillie ? Et au même titre que toute autre personne ? Et si elle ne se sentait pas incluse, pas au bénéfice d'un accueil désintéressé et aimant, que faudrait-il changer dans l'Église ou dans ma vie pour que ce soit le cas ? Et au-delà de la forme, quel est l'accueil de mon cœur ? Voilà certainement un des éléments les plus importants. Ô Seigneur, continue de changer, de transformer mon cœur à ta ressemblance. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. Le mot grec traduit par hospitalité en français dans nos Bibles est surprenant. Il s'agit en fait du terme philoxénia, qui signifie littéralement aimer l'étranger. Tout l'inverse du tristement célèbre et plus connu xénophobe ou xénophobie. L'hospitalité nous parle de faire tomber les barrières des préjugés envers tout ce qui nous est étranger. Au sens large. Dieu nous invite à pratiquer l'hospitalité, à exercer l'amour de l'étranger. Une hospitalité biblique qui va certainement bien au-delà du simple fait d'accueillir ses meilleurs amis, ce qui n'est pas interdit pour autant. Accorder de l'attention, accorder du temps à tous ceux qui nous sont étrangers, jeunes, vieux, voisins, collègues, migrants, amis, inconnus, etc., etc. Ça fait du monde. Surtout que le temps, c'est certainement la denrée la plus rare. Et le fait de leur en consacrer, ne serait-ce qu'un petit peu, ce sera aussi certainement ce qui touchera le plus nos contemporains. Accorder de l'attention, accorder du temps. Le temps nous manque, justement. Alors, je vais conclure. Quel rôle pour l'Église dans la société? Quel rôle pour chaque chrétien dans la cité? L'Église, c'est nous. Rôle purement spirituel dans notre coin? Rôle social? Je lance la réflexion. Chacun y réfléchira et trouvera, je l'espère, le bon équilibre pour mettre en œuvre ce beau commandement du Seigneur qui doit être notre leitmotiv quotidien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voulant nous justifier, nous demanderons aussi peut-être « Mais qui est mon prochain ?» Nous dirons peut-être bon, « Moi, je ne m'aime pas comme je suis, alors je ne peux pas vraiment aimer mon prochain. » Alors je dirais peut-être un autre verset, aussi une autre parole de Jésus-Christ qui nous dit « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Christ nous a généreusement accueillis, Christ nous aime généreusement. Lui seul nous rend ainsi capables d'accueillir et d'aimer, également d'accepter d'être accueillis et d'être aimés. Que la réciproque n'est pas toujours facile à vivre ou à accepter non plus. Soyons à notre tour donc généreux en accueil, dans les deux sens, et en amour, dans les deux sens, parce que son accueil pour nous, son amour pour nous déborde. Et s'il ne déborde pas encore, prions. Prions simplement et demandons-lui de nous transformer encore. Et ces prières-là, j'en suis certain, il les exauce toujours. Pour sa gloire et pour sa seule gloire. Amen.
Merci François. Alors, je vais vous proposer un petit peu d'agir maintenant. Et on va agir d'abord par la prière. Est-ce qu'on croit que Dieu nous entend quand on s'adresse à lui? Alors, nous allons avoir un moment de prière en petit groupe. On va redisposer un peu les sièges. Pour penser aux pauvres en France, mais aussi dans le monde, qui cherchent un accueil. On peut penser aux 5 à 9 millions de pauvres en France. Entre 2005 et 2015, ce nombre de personnes a largement augmenté, en particulier suite à la progression du chômage. Mais ce n'est pas comparable, bien sûr, à la pauvreté dans de nombreux pays de l'hémisphère sud. Ils sont nombreux à migrer de leur pays pour laisser leur pauvreté ou fuir les conflits locaux. Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, la Somalie, le Kenya, l'Éthiopie, le Sud-Soudan, la sécheresse s'abat depuis plus de 3 ans maintenant. Et dans cette région où la plupart des gens sont éleveurs ou cultivateurs, ils sont démunis face aux conditions climatiques. Ça conduit à une crise humanitaire catastrophique. Plus de 20 000 personnes ont besoin urgemment d'aide alimentaire. Et cette crise touche au total plus de 6 millions de personnes. Et cette situation, bien souvent, est aggravée par des conflits militaires armés. Un peu plus loin, on a 500 000 Rohingyas qui fuient la Birmanie pour le Bangladesh, violentés par la majorité bouddhiste. Les persécutions, les conflits, la pauvreté ont forcé plus d'un million de personnes à fuir en Europe en 2015. Beaucoup souhaitaient trouver la sécurité pour eux et leurs familles, prêts à risquer leur vie et à affronter un périlleux voyage. Parmi les personnes qui ont traversé la Méditerranée en 2015, Une sur deux était syrienne et cherchait à échapper à la guerre. Mais l'exode en Europe continue, en moins grand nombre, certes, mais en 2017, 140 000 personnes ont émigré par la mer et 2600 sont portées disparues. La France s'était engagée à relocaliser 30 000 migrants avant fin 2017 et seuls 4 700 sont déjà arrivés, principalement d'Italie et de Grèce. Alors on comprend bien que le rôle des politiques est clé dans ces problèmes et que la tâche n'est pas facile. Et c'est pour ça aussi qu'on vous propose ce matin aussi de prier pour eux. Et c'est ce que Paul proposait aussi il y a 2000 ans aux chrétiens, et c'est toujours d'actualité. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. C'était la première lettre de Paul à Timothée. Paul nous invite à prier pour tous, notamment ceux qui nous gouvernent, afin que la paix, la piété et l'honnêteté soient préservées. Aujourd'hui, tous ne vivent pas dans cette paix dans notre pays, ou dans leur pays. Les uns sont effrayés à la vue des migrants qui fuient misère et guerre. Les autres, notamment ces migrants, sont apeurés à l'idée d'être rejetés ou renvoyés dans leur pays. Pensons aussi à la crainte de ne pas s'en sortir, qu'expérimentent tous ceux qui vivent dans la précarité, la maladie, le handicap, l'isolement en France. Comment préserver la paix dans ce contexte? Mettre en place des politiques pour préserver la paix est le rôle de nos dirigeants politiques. Soutenons-les par nos prières afin qu'ils soient inspirés par Dieu, qu'ils aient un cœur généreux pour offrir un accueil à tous, particulièrement aux fragiles. Intercédons aussi tout particulièrement pour qu'ils accueillent Jésus dans leur vie et qu'ils pratiquent la piété et l'honnêteté. En ce qui concerne la paix intérieure, nous savons que Dieu seul peut donner cette paix. Il nous promet de la préserver dans la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors je vous propose maintenant un moment de prière en petits groupes. On va faire 4 à 5 groupes en retournant quelques chaises. Pour prier pour les plus démunis, pour ceux qui fuient leur pays, pour les plus pauvres, mais aussi pour nos autorités qui doivent gérer ces situations avec compassion en France. On pourra notamment prier pour ceux qui nous gouvernent, qu'ils soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Prions pour nos dirigeants, qu'ils soient sensibles à la situation des sans-domicile fixe, des marginaux, des handicapés, des immigrés. Prions qu'ils mettent en œuvre des politiques équilibrées et justes, n'oubliant pas les plus vulnérables et empêchant l'élargissement du fossé entre les plus démunis et le reste de la population. Prions pour le ministère du logement et de l'habitat durable, qui fait une de ses priorités de proposer un logement au lieu d'un simple hébergement aux personnes en difficulté. Prions pour le ministère de l'Intérieur, qui prépare et met en œuvre la politique du gouvernement en matière d'entrée, de séjour, d'exercice d'une activité professionnelle. Prions pour le ministère de la Santé et des Affaires Sociales, dans son action pour accompagner la vieillesse et le handicap, pour la mise en place de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, entrée en vigueur au 1er janvier 2016, la loi sur l'accessibilité de 2005, insuffisamment suivie, et du plan des maladies neurodégénératives de 2014 à 2019. Et prions enfin pour les politiques internationales, pour qu'elles n'aggravent pas la précarité des populations qui sont chassées de chez elles. Donc je vous propose de retourner un rang sur deux. Puis je vais vous distribuer quelques petits sujets de prière qu'on a.